Bonjour, je vous souhaite la bienvenue pour ce dernier épisode sur l'évangile de Matthieu. Ce 28e chapitre nous donne la clé de toute l'histoire du salut. Jésus est vivant, il est ressuscité des morts. Si le Christ, le Messie attendu des Juifs et des nations, était resté dans le tombeau, il n'aurait été qu'un enseignant de plus. Mais il est Dieu incarné. Pour le Père Céleste, les Juifs utilisent souvent le terme « Hachem ». Hachem signifie le nom, et ce nom s'est fait chair, comme l'écrit Jean dans le premier chapitre de son évangile. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et dans le dernier verset de cet évangile, nous lisons l'accomplissement de cette promesse lorsque Jésus dit à ses amis et à nous-mêmes, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » La résurrection de Jésus et sa promesse de ne jamais nous laisser seuls est la fin merveilleuse de cet évangile. En fait, la résurrection du Christ est fondamentalement différente de toutes les autres résurrections, comme celle de Lazare par exemple. Jésus avait arraché le corps de Lazare aux griffes de la mort et lui avait rendu sa vie terrestre. Mais Jésus est ressuscité pour l'éternité, pas seulement pour quelques années de vie supplémentaires. La Bible relate également son enlèvement corporel au ciel et il siège à la droite de Dieu jusqu'à ce qu'il revienne pour juger les vivants et les morts. Nous croyons en un Dieu vivant, glorieux et gracieux. Dans ce dernier épisode, je souhaite aborder quelques points supplémentaires de ce dernier chapitre. Tout d'abord, sur l'approche erronée de certains critiques de la Bible qui prétendent que les Écritures ne sont rien de plus qu'un livre habilement écrit. Il ressort clairement du 28e chapitre en particulier qu'un tel livre aurait été composé de manière très différente s'il n'avait pas été écrit sous la direction de l'Esprit de Dieu. Car si les Juifs l'avaient écrit en prétendant simplement être conduits par Dieu, le Christ ressuscité serait apparu en premier aux hommes, mais il est apparu d'abord aux femmes. Or, les femmes n'étaient pas considérées comme témoins légitimes selon la loi juive. Les auteurs n'auraient pas fait cette erreur. Matthieu explique comment les gardes racontent aux chefs sacrificateurs ce qui s'est passé. On leur demande donc de mentir et de dire qu'ils se sont malheureusement endormis et que les disciples sont venus et ont volé le corps de Jésus. Pour ce mensonge, ils ont reçu de l'argent. Mais cette menterie est absurde. Si un soldat romain s'endormait pendant sa garde, il risquait la peine de mort. Deuxièmement, tous les soldats auraient difficilement pu s'endormir en même temps. Et comment pouvait-il savoir que les disciples auraient volé le corps puisqu'ils étaient tous endormis? Malgré l'absurdité de ce mensonge, de nombreux juifs croient encore aujourd'hui que c'est exactement ce qui s'est passé. Mais maintenant, j'aimerais vous lire ce 28e chapitre en entier. Il comprend 20 versets. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie, Madeleine et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. » « Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue !» Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et l'adorèrent. Or Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'ils étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, dites, ses disciples sont venus la nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc le dimanche matin, un grand tremblement de terre s'est produit. Nous nous souvenons que lorsque Jésus est mort, il y a également eu un grand tremblement de terre. Lorsque Dieu lui-même descend dans le royaume de la mort et ressuscite en vainqueur, tous les éléments tremblent. Seules les personnes spécialement obstinées pensent qu'elles peuvent négliger cette vérité. Dans les chapitres précédents, nous avons lu combien de fois Jésus avait annoncé sa mort et sa résurrection. Il avait également dit aux disciples, lors du dernier repas de Pâques, de quitter immédiatement Jérusalem lorsqu'on l'arrêterait. Mais les disciples n'ont pas compris, alors ils n'ont pas quitté Jérusalem. L'ange et le Christ lui-même répètent donc cet ordre. Au verset 16, nous avons entendu que les 11 disciples, Judas était mort, il n'était donc plus que 11, se sont ensuite effectivement rendus en Galilée, je cite, sur la montagne où Jésus les avait convoqués. Ici, je dois ouvrir une parenthèse assez révélatrice. Vous vous rappelez comment Satan a tenté Jésus dans le désert et l'a emmené sur une montagne où il lui a proposé de dominer toutes les nations? Ici, sur cette montagne, se tenait maintenant le Seigneur ressuscité. Il avait rejeté l'homme de Satan et maintenant Dieu lui-même lui a donné la domination sur toutes les nations. Ça nous montre deux choses très importantes. Primo, les tentations du diable ont généralement l'air de venir de Dieu. Leur but ressemble comme une goutte d'eau au but de Dieu. Mais quoi qu'il en soit, si cela doit nous être donné, ce sera de la part de Dieu et au moment voulu par Dieu aussi. Secondo, Dieu réalise toujours sa volonté. Nous ne pouvons prendre aucun raccourci. Les promesses de Dieu, nous ne pouvons les accomplir nous-mêmes et aucun être ne peut le faire à sa place. Dieu seul est vainqueur et Seigneur. Et maintenant, regardons de plus près la mission de Jésus. Vous vous souvenez que les disciples ont d'abord été envoyés uniquement vers les Juifs? Après qu'Israël ait rejeté le roi, Dieu a étendu son offre de grâce au monde entier. Malheureusement, il existe tout un courant de chrétiens qui prétendent que Dieu a retiré ses bénédictions et ses privilèges de son peuple et les a donnés à leur place aux chrétiens des nations. C'est faux! Nous pouvons le voir très clairement dans la lettre aux Romains, entre autres. Les Juifs sont et restent le peuple élu de Dieu, et nous, païens, mais croyants en Jésus le Messie, avons été greffés à la vigne qu'est Israël. C'est pourquoi personne ne doit regarder Israël avec mépris, car c'est Israël qui porte l'Église et non l'Église Israël. Dans le 24e chapitre de l'Évangile de Luc, nous lisons le verset 47. « En son nom, la repentance et le pardon des péchés seront prêchés parmi toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Donc, exclure Israël de la bénédiction de l'Évangile, à mon avis, reflète soit l'ignorance, soit l'arrogance. Mais passons maintenant à ce qu'on appelle la Grande Commission elle-même. Laissez-moi relire les derniers versets. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Passons maintenant en revue chacune de ces déclarations, car elles nous concernent directement et sont centrales. Sinon, comment est-ce que nous pourrions accomplir la mission du Christ si nous ne la connaissons pas à fond? Premier point, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est la base. Dans tout ce que nous faisons pour le royaume de Dieu, nous devons faire confiance à la puissance de Jésus. Ne pas compter sur notre savoir-faire ou notre expérience, mais sur la toute-puissance de notre commissaire Jésus-Christ. Le prochain mot est « aller ». Être un disciple obéissant signifie sortir de la zone de confort, bouger, sortir. Troisièmement, faire de toutes les nations des disciples. Malheureusement, c'est souvent là que s'arrête l'exécution de la mission, c'est-à-dire dans l'évangélisation, excusez-moi. Prêcher et appeler à la conversion n'est cependant pas suffisant. Il faut un véritable changement de direction et un cheminement en obéissance. Mais comment un nouveau converti pourrait-il suivre Jésus si nous ne le lui enseignons pas la volonté et les attributs de Dieu? Quatrièmement, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous trouvons ici ce que l'Église a appelé plus tard la Trinité. Dans la Bible d'étude de Riri, nous trouvons la comparaison suivante, et peut-être qu'elle pourrait à vous aussi vous faciliter la compréhension de cette Trinité. Dieu est comme le soleil, Jésus est comme la lumière du soleil, et le Saint-Esprit comme la puissance du soleil. Je répète, Dieu est comme le soleil, Jésus comme la lumière du soleil, et le Saint-Esprit comme la puissance du soleil. Dieu est unique et se manifeste sous trois personnes. Mais que dit exactement Jésus ici, que nous devons baptiser toutes les personnes croyantes? Selon David Stern, il est dit ici, selon la compréhension juive, d'immerger les croyants dans le nom du Père, dans le nom du Fils et dans le nom du Saint-Esprit. Le nom représente dans la culture du Proche-Orient, plus que la désignation d'une personne, le nom signifie l'être lui-même. Nous devons donc immerger ceux qui sont convertis à Jésus, nous devons les immerger dans Dieu le Père, dans Dieu le Fils et dans Dieu le Saint-Esprit. Cinquièmement, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Là, il s'agit de former les disciples, et ça englobe beaucoup. Nous enseignons dans le cadre d'études bibliques, de conversations avec des amis, de l'école du dimanche, de podcasts, de vidéos, de livres, etc., etc. C'est un acte de charité que d'apprendre aux croyants comment vivre en tant que chrétien sans se perdre constamment. En tant que chrétien mature, il est toujours bon de prendre les plus jeunes sous son aile et de les guider patiemment. C'est un processus qui exige un engagement total. Même Jésus a pris 3 ans pour former ses disciples. Et ils étaient ensemble tous les jours. Cette formation ne se limitait pas à un sermon de 20 minutes le dimanche et à une étude biblique ça et là. Afin que les chrétiens nouvellement convertis ne s'égarent pas et ne deviennent pas inutiles dans le royaume de Dieu, ils ont droit à des conseils et à une instruction solide. Cela fait partie de la mission qui nous est confiée. Oui, et c'est avec cette merveilleuse promesse que l'évangile de Matthieu et ce podcast se terminent. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. N'oublions jamais, Jésus est vivant. Et avec nous, un rocher solide, un ami fidèle et un sauveur puissant. Que Dieu vous bénisse et vous garde, qu'il vous traite avec grâce et qu'il vous donne la force et la connaissance dont vous avez besoin pour accomplir sa volonté. Amen.